Allez, bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Donc, je commence par l'appel. Jackie Sommeil, Vanessa Savini, Jean-Pierre Monnet, donc absent, il est à la Chambre des métiers, puisqu'on a un artisan vinois qui est récompensé à la Chambre des métiers. Donc, pour l'instant, c'est encore un peu confidentiel, puisque. Mais maintenant, à l'heure où il est, ils ont dû avoir leur prix. Donc, c'était l'entreprise Ratio qui se trouve donc dans l'ancien espace où il y avait les meubles maçons, donc au premier étage, qui avait fait la une de la presse il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Donc, OK, 32, voilà. Myriam Charmazi, Ghislaine Genin, Raymond Bodin, Jean-Pierre Marion, Francine Arrigoni, Firmin Lopez, Pierre Bluna, excusez pouvoir à Francine Arrigoni, Béatrice Rozon, excusez pouvoir à Jean-Pierre Marion, René Roja, Nicolino Tonnambé, excusez pouvoir à René Roja, Patricia Morgado, Renaud Mélineau, Bérangère Champon, qui nous rejoindra peut-être, mais donne pouvoir à Raymond Bodin, Anne-Cécile Germain, Delphine Raymond Allong, Victoria Audin, absente, Alexandre Luxos, Nicolas Bosupica, Éric Silvestrini, Christine Curto, Daniel Mancip, Cécile Gaillard, Sylvia Vieuguet. Le quorum est atteint. Il n'y aura pas d'approbation du PV de la réunion précédente, puisque comme vous aviez eu la convocation quasiment en simultané pendant qu'on faisait le conseil, puisqu'on avait une semaine d'intervalle, donc on approuvera les deux PV en même temps au prochain conseil, puisque matériellement, on n'arrivait pas à vous le donner dans les temps impartis. Tout à fait. On vous a fait un mail dans ce sens-là, d'ailleurs, où on a répondu partiellement, mais qui sera retranscrit dans le PV. Je propose qu'on nomme Nicolas Bosupica comme secrétaire de séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, ce conseil municipal est orienté quand même beaucoup sur la partie chiffres et budget. Donc, la première délibération concerne le débat d'orientation budgétaire, donc qui a été vu en commission d'urbanisme ou en commission financière. J'ai plus la date. Mardi, il y a une semaine, donc le 7 novembre. Donc, je laisse la parole à Myriam Charabadzi, adjointe aux finances, pour vous présenter le débat d'orientation budgétaire 2024.
Bonsoir à tous. Donc, pour rappel, le débat d'orientation budgétaire est défini comme une discussion tenue par le conseil municipal. Il porte sur les grandes lignes du budget de l'exercice en cours. Et formellement, il est matérialisé par cette délibération. On rappelle qu'il est obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants. Et c'est la première étape formelle du cycle budgétaire des collectivités. Il intervient lorsque la préparation du budget par l'exécutif et par les services est déjà largement entamée, voire presque achevée. Donc, comme vous l'a dit Monsieur le maire, la semaine dernière a eu lieu notre commission où nous avons pu débattre déjà un petit peu sur ce rapport d'orientation budgétaire. On a eu certaines
Je fais juste un
remarques.
petit rappel pour tout le monde. Donc, les commissions, vous rappelez, elles sont ouvertes à l'ensemble des conseillers. Donc, bien sûr, les conseillers membres de la commission reçoivent une convocation et les autres ont une information. Et donc, tout le monde peut assister à toutes les commissions. Toutes les commissions sont ouvertes à tous. C'était ce qu'on avait pris, la décision qu'on avait prise en début de mandat. Donc, vous pouvez assister à toutes les commissions, même si vous n'êtes pas membre de la commission qui est convoquée le jour même.
Voilà, donc lors de cette commission, on a pu débattre sur différents points. Donc on a pris en compte différentes réflexions qui ont été débattues lors de celle-ci. Et puis vous avez pu prendre connaissance du DOB que je vais vous présenter donc ce soir. Pour rappel également sur le contexte national pour démarrer cette présentation. Le projet de loi de finances pour 2024 est marqué par la lutte contre l'inflation et la baisse du déficit public dans un contexte, on le sait, d'incertitude au niveau international et de remontée des taux d'intérêt. Les principales mesures de cette loi de finances 2024 assuraient un objectif dans la poursuite du soutien aux collectivités territoriales, tant sur le fonctionnement que sur l'investissement, apporter des solutions concrètes aux acteurs territoriaux pour mener à bien la transition écologique dans les territoires. Et puis, la loi de finances soutient à hauteur de 13 milliards d'euros les moyens d'investissement des collectivités, soit environ 20% de financement direct de l'investissement public local, afin d'accompagner les efforts en faveur de la planification, notamment écologique. On a quatre grands axes. La première, donc, l'augmentation de la dotation globale de fonctionnement. Le fonds vert, qui restera le moyen pour accélérer la transition écologique. Les dotations en faveur de l'investissement, à hauteur de 2 milliards d'euros. Et la revalorisation des bases fiscales. Donc, je souhaitais, en préambule, voilà, vous donner un petit peu la tendance des orientations plutôt nationales. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour notre commune. Donc, pour les dépenses de fonctionnement, pour la commune de Vigné, il est important de rappeler que les collectivités sont souveraines en matière de prévision budgétaire, des budgets primitifs. Les prévisions des dépenses et des recettes de chaque section sont estimées en fonction des obligations et contraintes nécessaires au bon fonctionnement de nos services. Aujourd'hui, le budget 2024 devra permettre de mettre en œuvre un programme ambitieux d'investissement et affirmer les objectifs politiques suivants, à savoir la mise en œuvre d'une politique de sobriété énergétique, un engagement très fort auprès des enfants et de la jeunesse de la ville par la construction de l'école Mayette, ainsi que des personnes les plus vulnérables, favoriser l'attractivité de la ville, notamment par le projet du château Montvinet, mais aussi par certaines festivités comme la fête de la Noix et du Saint-Marcellin, et toujours garder l'orientation du maintien du soutien au tissu associatif très dense de notre commune. Donc, les principales dépenses de la section de fonctionnement concernent les charges générales et celles du personnel communal. Aujourd'hui, elles représentent à peu près 84% du budget total de notre ville. Donc, si on rentre un peu plus dans les chiffres, sur la période 2018-2023, les charges générales ont considérablement fluctué. Un effort de gestion en 2019 s'est traduit par une baisse, vous le voyez, de 4% par rapport à 2018. Ensuite, la crise sanitaire qui est passée par là avec les différentes périodes de confinement ont limité les dépenses de charges générales, donc fermeture de certains équipements, suspension de services, et la baisse a été de 8% en 2020. En revanche, dès 2021, les charges ont beaucoup augmenté, soit 25%, une situation qui est due à la reprise de l'activité conjuguée avec l'achat de fournitures, notamment par rapport à la période après-période du Covid. Sur 2022, on voit que le retour à la situation a été plutôt normal, avec une attention particulière qui a été portée sur les charges générales, avec un suivi régulier et une maîtrise forte. Et les réalisations totales ont été inférieures de 2% par rapport à celles de 2021. L'exécution budgétaire en 2023 suit la même tendance que celle de 2022 et la commune bénéficie encore de tarifs réglementés en matière d'énergie et la maîtrise des dépenses se poursuit. Donc vous voyez que sur la courbe, on arrive plutôt à une tendance normale. Pour les orientations de 2024, la poursuite et donc la maîtrise des charges générales, notamment dans un contexte de crise énergétique qui reste un objectif majeur. Plusieurs postes budgétaires seraient en forte hausse, notamment les postes de l'énergie et notamment des assurances, on va le voir, suite à la forte augmentation des prix. Donc vous voyez que nos objectifs aujourd'hui sur les charges à caractère général sont la maîtrise ou la diminution des dépenses de fonctionnement de chaque service. On demande vraiment un effort en interne pour effectuer de grandes économies si on le peut. Le maintien du soutien à la vie locale et à la promotion du territoire. La maîtrise des dépenses d'énergie et des consommations d'eau. Le maintien de la capacité d'investissement de la ville. Et pour les principales évolutions à prendre en compte pour le prochain budget, au niveau toujours des dépenses, c'est donc l'augmentation des coûts de restauration scolaire, l'augmentation de la fréquentation à plus de 300 enfants accueillis chaque jour. Donc là, on sait que ça va représenter une évolution. L'augmentation des dépenses d'énergie qui sont aujourd'hui budgétées à plus de 200 000 euros. Une très forte augmentation des primes d'assurance, comme on l'a dit auparavant, à plus de 80%. La prise en compte de l'augmentation due à l'inflation sur l'ensemble des dépenses. Et puis toujours notre participation à la fête de la Noix et du Saint-Marcellin, ainsi que les fêtes de la Rosière. Donc vous voyez que au niveau des orientations et en lien avec les évolutions, il n'y a pas de grande surprise. On essaie juste de continuer à diminuer les coûts par rapport à l'augmentation d'autres coûts. Donc on essaie de faire des efforts sur le budget, notamment en interne, et on demande à chaque service de faire un effort. Donc on restera sur cette tendance. Toujours, si on peut rentrer un peu plus dans le détail sur les orientations proposées, c'est également la poursuite des travaux d'économie d'énergie, mettre en œuvre une politique d'achat permettant, comme je l'ai dit, de diminuer les coûts par des groupements de commandes, la maîtrise des dépenses d'énergie afin de préparer les très forts surcoûts liés à l'augmentation des tarifs d'électricité pour 2024, et une réflexion sur l'entretien et le traitement d'eau, notamment sur la piscine, pour limiter les dépenses d'énergie. On passe à l'évolution des charges de personnel. Donc là, les moyens humains pour le fonctionnement de la collectivité occupent une place très importante dans le budget communal. L'évolution de la masse salariale est liée d'une part aux effectifs et à l'évolution du coefficient du glissement vieillesse-technicité, et enfin à l'évolution de la valeur du point d'indice. Donc le tableau que vous voyez illustre l'évolution des charges de personnel sur la période 2018-2023. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2022, l'augmentation réglementaire du point d'indice a été de 3,5% et s'est traduite par une hausse importante de la masse salariale. Et l'exercice 2023 inclut l'augmentation de l'indice sur une année pleine, ainsi que l'augmentation de 1,5% mise en œuvre depuis juillet 2023. Donc là-dedans, la hausse qu'on retrouve sur 2022 est due à l'évolution du coefficient du glissement vieillesse-technicité, mais également à des investissements que l'on a faits par rapport notamment au PEDT, où là on a décidé de mettre en place une politique d'accompagnement pour les scolaires par le recrutement et puis le lissage de notre personnel de mairie. Ce qui fait qu'on a eu cette petite hausse, mais qui aujourd'hui s'équilibre sur cette fin d'année 2023. On a également les avantages acquis qui seront maintenus pour les agents communaux, avec toujours l'évaluation du RIFSEP en 2024 et puis les réflexions sur l'augmentation de la participation de la ville pour peut-être la mutuelle des agents. On a un travail sur la mutualisation de certains postes qui va se poursuivre. En 2023, la commune avait déjà engagé la démarche de mutualisation, notamment avec Saint-Marcellin. Donc, on le voit, poursuivre la maîtrise de nos dépenses de personnel en 2024, ajuster l'organisation des services pour limiter les remplacements suite au départ. Donc, là aussi, on l'avait vu, commencer à ne pas remplacer les départs en retraite, poursuivre la mutualisation de certains postes et maintenir des avantages sociaux pour les agents. Pour les subventions. Donc, la ville poursuit son soutien au tissu associatif, qui est moteur de dynamisme territorial et de l'attractivité de la commune. Un effort important a été déployé par la ville depuis la sortie de la crise sanitaire. L'objectif aujourd'hui, c'est de continuer à réfléchir à des subventions versées en fonction des besoins réels des associations, demander des efforts aux associations sur nombre d'impressions et consommation au niveau du chauffage et de l'électricité. Toujours travailler sur la convention d'objectifs pour toutes les associations qui obtiennent plus de 2 000 euros de subvention et un ajustement de la subvention du CCAS en fonction de leurs besoins réels. Pour les recettes de fonctionnement, donc, près de 88% des recettes du budget communal, on le rappelle, proviennent de la fiscalité, des dotations de l'État et des participations d'autres collectivités et organismes, comme le département, la région ou la caisse des allocations familiales. Et les recettes courantes sont en progression constante. Aujourd'hui, il est important de noter que les recettes enregistrées au compte administratif estimé 2023 ne prennent pas en compte les produits de cession pour un montant d'un peu plus de 2 millions d'euros. Elles sont enregistrées en recettes d'investissement par opération d'ordre budgétaire. Si on regarde d'une manière générale les recettes fiscales, y compris sur la taxe d'électricité, celles-ci ont progressé d'une manière plutôt régulière. Les bases fiscales des taxes ménages, le coefficient de valorisation, lui, a été défini depuis 2018 sur la base du glissement annuel constaté au mois de novembre de l'indice des prix à la consommation harmonisé. L'accélération de la hausse des prix est bien sûr liée à la flambée des prix de l'énergie qui fait déraper l'inflation. Malgré une décélération ces derniers mois, l'inflation reste à un niveau élevé en France, d'après l'INSEE, hein, plus de 4% sur un an en juillet. Par conséquent, après un record depuis au moins 30 ans avec une augmentation de 7% en 2023, les collectivités devraient pouvoir compter l'année prochaine sur une hausse aux alentours de 4%, selon les dernières prévisions de la Banque de France. Donc, pour ces recettes de fonctionnement, on garde en tête l'hypothèse d'une augmentation des bases nationales comprises entre 2 et 3% pour 2024. Rechercher des pistes de recettes nouvelles, par exemple mise à disposition de toitures sur les bâtiments communaux pour le photovoltaïque. Avoir une réflexion sur l'augmentation des tarifs. Refacturation des moyens de la ville mis à disposition de Vinet Chaleur Bois. Poursuivre la recherche encore et toujours des subventions, et puis étudier la vente des biens immobiliers, notamment bah, l'ancienne caserne des pompiers ou le bâtiment des arcades qui aujourd'hui reste très énergivore. Pour les dépenses d'investissement, toujours les grands projets 2024. Vous les connaissez, donc c'est terminer les travaux du gymnase, continuer poursuivre les travaux d'économie d'énergie, donc sur nos bâtiments et les espaces publics, le projet du château, la construction de notre future école, et puis poursuivre les travaux de voirie. Le financement de ces travaux sera assuré par nos ressources propres, l'autofinancement, les amortissements et le FCTVA, les cessions de terrain et bâtiments, les subventions des différentes collectivités et organismes, notamment pour le projet de l'école et le château, l'emprunt en tant que variable d'ajustement et particulièrement pour le financement des travaux du château. On fait également un état de la dette. Aujourd'hui, l'encours de la dette qui sera donc connu au 31 décembre 2023 est d'environ 5 millions d'euros. Au début de l'exercice 2023, la commune a emprunté un peu plus d'un million d'euros pour financer l'acquisition du château. La nuitée 2024 sera de 596 729 euros. Elle regroupe dedans le remboursement du capital et des intérêts. Pour l'évolution des charges de fonctionnement à caractère général, on passe donc là au budget Vinet-Chaleur-Bois. Les charges générales de la régie ont évolué de manière importante après la crise sanitaire. En 2022, un effort de maîtrise des dépenses a aussi été réalisé par tous les services. On rappelle jusqu'en 2022 que les principales recettes de la régie étaient la vente de chaleur de la chaufferie bois et l'exploitation de la centrale thermique, ainsi que la vente d'électricité produite par celle-ci. Son évolution a suivi une courbe ascendante, ce qui a permis au budget de la régie de dégager des marges de manœuvre pour le financement de ses investissements. La centrale thermique a été vendue le 31 décembre 2022, car ce dispositif n'était plus pérenne dans le temps et les travaux d'investissement à réaliser devenaient trop importants pour avoir un outil de production rentable. La vente de la centrale thermique a entraîné une forte baisse des dépenses, mais également des recettes. Donc aujourd'hui, pour les principales opérations de 2024 pour Vinet Chaleur Bois, c'est de poursuivre le développement du réseau avec le raccordement des bâtiments suivants. Le bâtiment de la chapelle et la reprise du réseau de la salle des fêtes, l'église, le château et ses annexes, et puis la nouvelle école. Ainsi qu'installer une production d'électricité photovoltaïque sur la toiture de la chaufferie pour de l'autoconsommation. J'en ai fini avec la présentation. J'espère que tout le monde l'a bien comprise. On ne peut pas forcément rentrer dans tous les détails. Je vous rappelle que ça reste un débat d'orientation budgétaire. On vous donne les grands axes pour le vote du budget. Comme je le disais, il n'y a pas de grande surprise. On est plutôt sur un effort d'économie. Tout en gardant nos projets en tête et puis de maîtriser au mieux nos dépenses.
Merci. Il y a quand même un axe majeur qu'il faut quand même signaler, puisque vous avez pu le lire dans la presse, bon nombre de collectivités ont largement fait évoluer leur base fiscale et ont fait une augmentation des parts communales, hein, puisqu'on est bien d'accord, le débat... On sait bien tous que les bases augmentent par le biais du processus de l'État. Par contre, les taux communaux, eux, seraient une délibération qui sont prises par les conseils municipaux. Donc, dans le débat d'orientation budgétaire qui vous est proposé, c'est de ne pas toucher les taux communaux. Donc pas d'augmentation des impôts à l'échelle de la ville. Pour répondre tout de suite, il est clair que ça ne veut pas dire que l'impôt n'augmentera pas, puisqu'il augmentera par le mécanisme de l'augmentation des bases. Mais contrairement, vous avez pu le lire, je crois que Grenoble, c'est plus 25% sur leur taux, et d'autres villes ont également largement fait varier leur taux. Et là, la proposition, c'est de ne pas toucher les taux communaux. Ça, je pense que c'est l'élément majeur quand même du débat d'orientation budgétaire pour 2024, puisque ça, pour nombre de communes, aujourd'hui, travaillent sur cet axe-là, et ce n'est pas l'axe qu'on a choisi. Il y a des questions, des remarques sur cette proposition d'orientation budgétaire pour 2024 qui présage donc qui va servir de support pour bâtir le budget 2024. Je rappelle qu'il sera mis au débat le 20 décembre.
Moi, je voulais juste avoir une information, page 8, donc de votre dossier. En haut, il y a marqué, donc toujours dans la même trajectoire de réduction de l'ensemble des dépenses courantes de la ville, une réflexion est engagée pour l'externalisation du nettoyage des bâtiments. Je voudrais savoir ce que ça induit. Aujourd'hui, donc, c'est fait par le personnel municipal et vous allez l'externaliser.
Oui, on réfléchit sur certains bâtiments, en particulier sur des bâtiments, on va dire, saisonniers, comme la piscine, où du coup, de travailler peut-être sur... on fait le comparatif, de dire est-ce que c'est plus intéressant d'extérioriser, avec aussi des niveaux d'exigence plus faciles à maîtriser, des niveaux RH aussi plus faciles, puisqu'aujourd'hui, on est sur des emplois saisonniers, on s'aperçoit que c'est pas toujours évident de pouvoir avoir les gens le matin ou le soir, parce que ils sont pas forcément toujours disponibles et ils peuvent aussi être tentés par autre chose. Donc c'est une réflexion qu'on mène, effectivement, et comparer aussi sur l'aspect financier à coût global, c'est-à-dire RH compris, quoi.
Mais ce serait que pour la piscine ou pour...
Enfin, la réflexion en tout est pour la piscine, mais on réfléchit aussi, par exemple, pour le gymnase aussi, pour des choses comme ça, aussi pour pouvoir aussi travailler sur des emplois plus pérennes, parce que là, aujourd'hui, on donne des temps de travail qui sont courts et on crée, par définition, des postes précaires, puisque c'est des horaires décalés et ça pose problème. Et on a de plus en plus de problèmes aussi de recrutement aussi, il faut l'avouer. Donc, on réfléchit. C'est une réflexion. Voilà, le comparatif financier sera fait.
Oui. Moi, je trouve qu'il faut garder des emplois municipaux plutôt que de
aussi, effectivement... mais il faut aussi se méfier de l'emploi précaire concret.
Oui, tout à fait. Mais après, c'est une réflexion sur...
Oui, mais comme on a besoin souvent des mêmes personnes au même moment, dans les mêmes horaires, on crée de l'emploi précaire. Et ça, c'est un problème. Donc aujourd'hui, on réfléchit à ça. Mais c'est une base de réflexion. On n'a pas encore les chiffres, on ne sait pas. Mais en tous les cas, on ne s'interdit pas aujourd'hui de réfléchir sur cette question. D'autres remarques sur l'orientation pour 2024? S'il n'y a pas de remarques, je mets au vote, alors. Après, il n'y a pas de vote, pardon.
Il n'y a pas de vote.
C'est la petite subtilité qu'il n'y a pas de vote sur le débat d'orientation. Donc, réunion donc, de la commission finances qui travaillera sur le budget le 13 décembre. Et le conseil municipal sera le 20 décembre sur la partie budgétaire. On continue sur l'adoption du référentiel budgétaire comptable M57. Je laisse la parole à Myriam pour vous donner quelques détails, s'il y a lieu.
Donc là, c'est une délibération très technique qui va s'appliquer pour nos services dans le cadre d'une nouvelle réglementation nationale et également par notre percepteur. Donc c'est l'adoption de ce nouveau référentiel budgétaire et comptable, donc la M57, au 1er janvier 2024. On rappelle que sur des commissions précédentes, on l'avait déjà évoqué. Aujourd'hui, cette norme comptable permet le suivi budgétaire et comptable d'entités publiques locales variées, appelées à gérer des compétences relevant de plusieurs niveaux. On rappelle que le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la comptabilité M14, donc ancienne comptabilité. Synthétiquement, les principaux apports induits par le passage à la norme budgétaire et comptable M57 sont les suivants. Un référentiel porteur de règles budgétaires assouplies, un prérequis pour présenter un compte financier unique, l'intégration d'innovations comptables pour une amélioration de la qualité des comptes et une meilleure information du lecteur des comptes, qui sera, je le rappelle, public. Par ailleurs, ce passage au référentiel M57 nécessite des prérequis, dont l'apurement obligatoire du compte 1069, puisque ce compte n'existe pas dans l'instruction budgétaire et comptable M57 et ne peut donc pas être de fait transposé. Donc aujourd'hui, les collectivités peuvent anticiper ces opérations d'apurement. Donc par rapport à ce nouveau passage à la M57, on est obligé d'effectuer certains apurements. dont un de nos comptes, un de nos chapitres 1069, qui est un compte non budgétaire, qui a pu être exceptionnellement mouvementé, notamment pour neutraliser l'incidence budgétaire résultant de la mise en place du rattachement des charges et produits à l'exercice dans les comptes. Ce compte 1069 du budget principal est aujourd'hui débiteur d'un montant de 68 346 euros. Afin d'apurer ce compte, il est proposé de procéder sur l'exercice 2023 à une opération semi-budgétaire avec l'émission d'un mandat d'ordre mixte pour le même montant au débit du compte 1068. Donc c'est très comptable ce que je vous explique, mais c'est pour vous expliquer dans les détails la gymnastique que ça va nous demander pour apurer un de nos chapitres. Et cette écriture comptable est la méthode préférentielle validée par la Direction générale des finances publiques. Donc je ne sais pas si Guy, tu veux rajouter des détails.
Juste pour rappeler que sur l'apurement du compte 1069, on avait pris une décision modificative lors du précédent conseil municipal pour venir alimenter ce compte. Voilà, donc on vient juste le constater dans la délibération, puisque c'est une délibération obligatoire avec le vote du, enfin pour acter le passage en M57, ce qui est une obligation. Hein, donc on n'a pas bien le choix de prendre cette délibération.
Des questions sur la délibération? Bon, c'est une délibération qui me fait toujours sourire, puisqu'on n'a pas le choix et on doit délibérer. Donc c'est toujours le paradoxe de notre État. Et ça, on
si
aime
on
bien.
Veut tous non, qu'est-ce que ça fait?
Je ne sais pas. Honnêtement, je ne pense pas
non,
qu'il change la loi.
C'est absurde, ce serait peut-être une chose à faire.
Je ne pense pas qu'il change la loi. Bon, voilà. Enfin, bon. Alors, ceci dit, quand même, globalement, le plan comptable M57 semble amener quand même quelques progrès à la gestion, on l'espère en tous les cas. C'est comme ça qu'il a annoncé, a priori, avec toute la difficulté qu'on va avoir, comme toujours, dans l'administration à mettre en place. Donc je mets au vote, qui est contre, qui s'abstient, merci. On continue toujours sur les chiffres, sur la cartographie du périmètre entre le budget principal et le budget annexe Vinay-Chalerbois. Donc ça c'est pour, je laisse la parole à Myriam, mais c'est juste pour vous rappeler que toujours dans un souci d'analytique et de justesse de nos comptes différents, on rééquilibre les dépenses par rapport aux différents comptes, que ce soit CCAS, résidence autonomie, puis des chaleurs bois ou le budget principal. Mais je laisse Myriam vous donner les détails.
Donc là, afin d'avoir une vision globale des flux internes, il convient d'établir une cartographie du périmètre des budgets annexes et une procédure formalisant les contrôles afin d'identifier les flux internes à refacturer entre budget principal et budget annexe. S'agissant du budget annexe Vinay-Chalerbois, des dépenses de fonctionnement et l'ensemble des emplois sont portés par le budget principal. Aujourd'hui, il convient de fixer les dispositions générales régissant les modalités des concours et moyens apportés par le budget principal dans le fonctionnement du budget annexe Vinay-Chalerbois, selon une cartographie précise, à savoir l'utilisation des logiciels, des équipements informatiques, la maintenance et l'entretien du parc informatique, les contrats de prestation de services, les locations mobilières, les assurances matérielles, les affranchissements, mais également sur les fonctions support payantes, la direction générale des services, le directeur de la régie, le pôle ressources, le service technique, et puis les fonctions à titre gratuite comme le service accueil et le service informatique. Aujourd'hui, il convient de valider la facturation annuelle des moyens et supports mis à disposition du budget annexe Vinay-Chalerbois par des moyens à hauteur de 2,5% du chapitre 011 de l'année précédente hors fluide, hors facture d'entretien du bâti et remboursement de frais sur la base réelle de la taxe foncière de la centrale thermique qui a été cédée fin 2022, avec pour fonction sur la base d'un prorata de la masse salariale de 3% de la Direction générale des services. Pareil, sur une base de la masse salariale de 50% du directeur de Vinay-Chalerbois. sur une masse salariale de 19% des agents du service ressources et de 3% des agents du service technique. Aujourd'hui, le budget annexe effectuera son remboursement sur cette base.
Des questions ? Donc, s'il n'y a pas de questions, je mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. On continue toujours dans le même domaine, donc toujours en Myriam, sur la création d'un emploi non permanent dans le cadre du contrat de projet. Donc ça concerne notre directeur de l'échelle en bois, mais je laisse la parole à même.
Donc là, on le voit souvent, donc c'est notre gymnastique des tableaux des emplois. Sauf que là, donc, on connaît très bien cet emploi donc, de notre directeur chargé des missions sobriété énergétique et des régies de chauffage urbain. Pour rappel, on avait créé un poste à temps complet et nous devions le mettre à disposition à hauteur de 50% avec la ville de Saint-Marcellin. Donc, vous vous rappelez, 50% chez nous, 50% sur Saint-Marcellin. Mais on a été retoqué parce que ce n'est pas possible pour les agents contractuels. Donc le poste qui avait été créé en 2022, dans sa totalité, et que l'on avait voté, doit être supprimé sur un prochain conseil municipal après passage en comité social territorial. Aujourd'hui, on souhaite recréer cet emploi à mi-temps, donc à 50%, sur le grade, pareil, d'ingénieur territorial relevant de la catégorie hiérarchique A, afin de mener à bien le projet précité pour une durée prévisible de 3 ans. Donc le poste, on le connaît. Aujourd'hui, on fait simplement une mise à jour parce qu'on a été retoqué. Donc on prend 50%, donc, et Saint-Marcellin fera la même chose.
Des questions sur cette gymnastique ?
Donc chaque année, ça, il y aura de, parce que c'est marqué, le contrat est conclu pour une durée minimale d'un an. Donc oui. Chaque année, il y aura la délibération.
Oui, oui. Bah après, nous, on le vote pour 3 ans. Mais après, on rediscutera, nous, en interne, de ces missions chaque année, en fait. Mais le contrat est sur 3 ans.
Alors pourquoi c'est marqué, le contrat est conclu pour une durée minimale d'un an et d'une durée maximale fixée par les parties dans la limite de 6 années.
Alors, c'est ce type de contrat de projet. Hein. La durée minimum des contrats de projet, c'est 1 an. Et après, ça peut aller jusqu'à un maximum de 6 ans. Donc là, aujourd'hui, l'engagement pour permettre un recrutement et avoir quelqu'un qui soit sur la durée, la proposition, ça sera de partir sur un contrat d'une durée de 3 ans. Après, il y a une évaluation chaque année. Hein. L'agent pourrait, mais on sera sur une démission s'il souhaite s'arrêter avant. Mais c'est plutôt le type de contrat qui a un contrat de projet, c'est 1 an minimum et 6 ans maximum.
Alors. Et pourquoi vous faites un contrat de projet ? Ça ne peut pas être un emploi fonction publique, ingénieur territorial ? C'est parce que vous pensez que dans 6 ans, il n'y aura plus besoin ?
Parce que alors, l'idée, c'est de se laisser le temps de mettre en place ce poste pour la partie directeur de la régie, où effectivement, là, c'est un poste qui sera pérenne. Donc, c'est la moitié de son temps hein, sur Vinay, à peu près en intervention. Par contre, sur la partie sobriété énergétique, sur ce type de poste qui a déjà été mis en place dans d'autres collectivités, on sait que c'est entre 3 et 6 ans pour mettre en place les actions d'économie d'énergie. Après, on est sur d'autres missions, souvent. C'est plus tout à fait les mêmes missions. Donc, c'est pour ça que pour éviter de partir sur un agent titulaire et un emploi beaucoup plus pérenne dans le temps, on a plutôt préféré la solution contrat de projet aujourd'hui. Parce que ça veut dire que dans 3 ans, en tout cas, il faudra se reposer sur les questions sur les missions de l'agent. En tout cas.
Oui, c'était une volonté d'avoir de la souplesse sur ce type de poste parce qu'on sait que ça peut évoluer. On est sur, on voit bien, 50% son temps sur la régie Vinay-Chaleur-Bois, 50% sur la sobriété. Mais la sobriété, c'est quelque chose qui va pouvoir évoluer parce que là, aujourd'hui, on a un bon nombre d'évolutions qui sont en train de se mettre en place. Bon, la grosse action de l'année, c'est le changement des luminaires, puisque 90% à l'heure où je vous parle a été aujourd'hui remplacé, survolé, 90% donc de l'éclairage est en LED. Les 10% vont se finir dans les prochaines semaines, puisque c'est des points un peu plus complexes à mettre en place. Donc ça, c'était des actions. Il y a toutes les actions sur la partie économie d'énergie sur les bâtiments. Mais après, il y aura peut-être d'autres évolutions. Donc c'est donner de la souplesse. On était aussi sur un emploi partagé avec la ville de Saint-Marcelin. Donc c'était aussi des volontés des deux collectivités. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur un emploi de projet. Et aussi, il faut bien se l'avouer, c'est compliqué aujourd'hui pour recruter aussi des gens qui ne sont pas dans un cadre de contrat de projet. C'est beaucoup plus compliqué. La fonction publique a la même difficulté aujourd'hui que le monde privé, où les gens ne sont pas très intéressés par ces postes. C'est une réalité, malheureusement, aussi qui fait partie. Mais ce n'était pas la volonté principale. La volonté principale, c'était vraiment sur le type d'évolution des missions. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et là, je laisse la parole donc à Vanessa Savigny, donc adjointe au scolaire, pour nous parler de l'autorisation de signature des conventions passées avec les communes de résidence pour les enfants scolarisés dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire, type ULIS, sur l'école de Vinet.
Alors, bonsoir. Comme vous savez, donc, on a une classe dispositif ULIS de 12 élèves. Donc on a 7 élèves qui sont hors de la commune. Donc comme toutes les années, une convention est passée pour refacturer aux communes hors de résidence des élèves la somme qui est détaillée dans la convention qui concerne les frais de fonctionnement où on prend en charge tous les frais de fonctionnement, le chauffage, les frais du personnel liés à la scolarité, les travaux de maintenance des locaux scolaires, le coût des fournitures, voilà, comme chaque année. Donc cette convention est pour la rentrée scolaire septembre 2023-2024, donc à la fin de l'année scolaire, on connaîtra tous les frais de fonctionnement et on pourra, grâce à cette convention, refacturer à chaque commune les frais. Des questions ?
Alors, est-ce que, en fait, on a déjà voté l'année dernière cette délibération? Est-ce qu'il y a eu une augmentation des tarifs? Est-ce que c'est resté pareil? Ça sera...
Donc, comme c'est pour cette année scolaire-là, 2023-2024, donc les frais ne sont encore pas tous connus, seront connus D'accord. à la fin de l'année scolaire, mais généralement, ils sont toujours autour de 850 euros. Il n'y a pas d'augmentation, mais aujourd'hui, à ce jour, on ne les connaît encore pas.
Oui, ça varie sensiblement chaque année, parce qu'il y a quand même des notions de fluide, etc. Ça varie toujours. Par contre, le principe de calcul est toujours le même. Et là-dessus, bon, on a aucun souci avec des communes qui ont des enfants, où le système aujourd'hui est bien rodé. Et la délibération, d'ailleurs, là, vous est proposée pour éviter de redélibérer chaque année, qu'on délibère sur un principe, et chaque année, elle sera réactivée sur ce principe-là.
Et il y a combien d'enfants dans cette classe?
Donc c'est 12, c'est le maximum qui est possible dans cette classe, et on en a 7 qui ne sont pas devinés cette année.
5 devinés,
voilà. Oui.
D'accord. Et depuis 3 ans, on a obtenu le prolongement de ce dispositif ULIS au collège. Ouais. Donc, c'est la troisième rentrée où le dispositif ULIS continue au collège de Vinet, qui permet de garder une stabilité sur ses élèves. C'était une des volontés, on a obtenu cette partie-là. S'il n'y a pas de questions, je propose de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc on a terminé les sujets de l'ordre du jour. Donc le prochain conseil municipal sera le 20 décembre pour le vote du budget, bien entendu, objet principal, et bien sûr d'autres sujets. Et on terminera par un apéritif de fin d'année pour... clôturer nos travaux de l'année 2023. Merci. Et je vous fais le rappel de quelques dates quand même importantes dans les prochains jours. Donc le 21 novembre, commission éducation, jeunesse, culture à 18h. Le 1er décembre, repas des aînés, donc à 12h à la salle des fêtes. Le 15 décembre, l'arbre de Noël des agents à partir de 17h30 à la salle des fêtes. Et il doit manquer la commission finance. Et la commission. Non. Et la commission finance du 13 décembre. Voilà les dates des prochains mois.